Vous écoutez, on lit pour vous.
L'avenir incertain, moteur des révoltes de la génération Z sur la planète. Un texte de Sarah Boumeda, paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir. Partout dans le monde, la génération Z prend la rue. Du Maroc au Népal, en passant par Madagascar, des milliers de jeunes font entendre leur voix et dénoncent un régime autoritaire, une corruption banalisée ou encore un coût de la vie trop élevé. Appartenant à une génération au poids démographique imposant, ils partagent leurs inquiétudes quant à un avenir incertain. Les moins de 30 ans représentent environ la moitié de la population mondiale selon les Nations Unies. On retrouve cette même proportion au Maroc et au Pérou, où des mouvements de protestation menés par la génération Z ont éclaté à l'automne 2025. Au Népal, où de telles manifestations ont mené à la chute du gouvernement, cette proportion grimpe même à 55%. Les 15 à 30 ans, qui forment la tranche d'âge la plus proche de la génération Z, personnes nées entre 1997 et 2012, forment le quart des populations marocaines et péruviennes et environ 30% de la population népalaise. Le poids démographique de ce groupe d'âge explique en partie ces manifestations d'envergure qu'on aurait du mal à voir ici, selon le sociologue Alejandro Hernandez, professeur à l'Université Concordia. Au Canada, les 15 à 30 ans comptent pour seulement 17% de la population. Même chose ailleurs en Occident. 18% des Français font partie de cette tranche d'âge et 16% des Allemands. Ce n'est toutefois pas la première fois que l'on assiste à de tels soulèvements quasi simultanés. Ça me rappelle le printemps arabe, où plusieurs populations se sont organisées de manière organique afin de manifester, dit-il en entrevue au Devoir. Ces gens voyaient aussi de la corruption dans la manière de gouverner de leur régime. C'est intéressant de voir cette fois ce genre de nouveau mouvement naître de la génération Z, parce que généralement, en sciences politiques, la jeunesse n'est pas vue comme étant impliquée dans la vie politique. Et ce, même si l'histoire montre le contraire. Il mentionne notamment le Mexique, lui aussi aux prises avec des manifestations portées par la Gen Z, qui avait été le théâtre de mouvements étudiants sanglants à la fin des années 1960. Cause commune, contexte variable. Tout comme lors du printemps arabe, la naissance de ces mouvements s'est faite principalement sur les réseaux sociaux. Alors qu'en 2011, les jeunes se réunissaient surtout sur Facebook ou Twitter, la génération Z privilégie plutôt Instagram ou Discord, entre autres. Ces jeunes réagissent à une multitude de problèmes économiques, sécuritaires ou judiciaires qui ont trop tardé à être résolus, analyse M. Hernandez. Plusieurs des défis économiques avec lesquels ils doivent composer sont d'ailleurs présents au Québec. Une crise du logement grandissante, un marché du travail saturé, un coût de la vie trop élevé. Tout ça, ça génère une incertitude face à l'avenir, explique le sociologue. Cependant, la différence entre les jeunes d'ici et d'ailleurs demeure le contexte dans lequel ces manifestations prennent place. Le Canada n'a pas la même histoire d'instabilité économique ou politique. Son imposant territoire crée aussi des réalités parfois bien différentes chez les jeunes d'un océan à l'autre. Je doute que les Québécois puissent manifester pour les mêmes causes, de la même façon que des jeunes à Vancouver, par exemple, à moins qu'une menace d'envergure nationale ne se manifeste, explique le professeur. Par ailleurs, ces mouvements ont tous eu un élément déclencheur unique. Au Pérou, la mort du rappeur Truco, sous les balles d'un policier lors d'une manifestation anti-régime, a déclenché une vague de protestations de la jeunesse contre le gouvernement. Au Maroc, le collectif Gen Z 212 s'est formée à la suite du décès de 8 femmes enceintes admises pour césarienne dans un hôpital d'Agadir. Au Népal, ce fut la censure d'une vingtaine de réseaux sociaux en septembre 2025 qui enflamma les passions. À moins que quelque chose d'aussi gros n'arrive ici, je vois mal comment les jeunes Canadiens réagiraient de la sorte, observe Alejandro Hernandez. C'était l'avenir incertain, moteur des révoltes de la génération Z sur la planète, un texte de Sarah Boumeda, paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir.
La philanthropie culturelle traîne de la patte au Québec. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 17 novembre 2025 dans Le Devoir. Il faut améliorer le financement privé des arts au Québec. C'est la recommandation des deux chantiers de réflexion sur les arts vivants et les festivals dont le ministre de la Culture Mathieu Lacombe a dévoilé les constats en novembre 2025. C'est aussi ce que prônent les différents gouvernements depuis 20 ans. Mais le Québec reste très en retard pour les dons individuels faits aux arts. Les organismes en art de la scène récoltent 6,5 fois moins de revenus privés de la philanthropie des particuliers ici qu'en Ontario. C'est ce que dévoile Cultiver l'engagement. Pour une philanthropie au service de la culture, l'étude signée volume 10. D'emblée, et pas juste en culture, les Québécois donnent moins que leurs voisins, même lorsque les dons sont rapportés, à leurs revenus, lit-on. Le Québec compte 51% de donateurs qui offrent en moyenne 422 $ par an. Au Canada, c'est proche, 54% de donateurs sortent de leur poche 641 $ en moyenne, beaucoup plus. La culture, on le savait déjà, est au 11e rang des priorités des philanthropes, bien derrière la santé, les services communautaires, la protection des animaux, juste à la queue des sports. Elle ne représente que 4% des dons individuels. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé de stimuler la générosité. En 1999, le fédéral ouvrait le bal avec des incitatifs au fonds de dotation mis en place dans le Fonds du Canada pour l'investissement en culture. Le gouvernement y offre une subvention de contrepartie sur les dons amassés. Le tout va dans un fonds à perpétuité qui génère des revenus annuels récurrents. Depuis 20 ans aussi, le financement privé est un objectif affiché par les gouvernements québécois, rappelle l'étude, qui collige des citations en ce sens tenues tour à tour par Lynn Beauchamp, Christine Saint-Pierre. On voit qu'aux États-Unis et ailleurs au Canada, le mécénat est vraiment plus fort qu'ici. L'effort du gouvernement doit être accompagné par le milieu des affaires. Pauline Marois, Luc Fortin, etc. Le programme Mécénat Placement Culture, mis en place en 2005, est une des initiatives de Québec. Jusqu'en 2017, les dons y ont connu une forte hausse. L'appariement apporté par le programme fait que le gouvernement rajoutait alors 130% de la somme du don. Résultat, 65 millions en subventions ont été octroyés de 2005 à 2017 à 351 organismes. Le programme fonctionnait, le nombre de demandes y a augmenté, mais pas les fonds. Les dons y ont malgré tout augmenté de 2018 à 2021, mais la stagnation de l'enveloppe de subventions et la baisse du pourcentage d'appariement ont freiné cet élan, entraînant un ralentissement de la participation, rapporte volume 10. Donné aux grands orchestres riches de Montréal. Il y a des ressemblances entre les organismes culturels du Québec qui arrivent à tirer du financement privé. C'est plus facile pour les gros, ne serait-ce que parce qu'ils ont des ressources humaines à y consacrer. Le seuil critique se situe autour de 750 000 $ de revenus annuels. En deçà, seulement une organisation sur quatre développe un financement privé significatif. Au-delà de 2 millions de $, c'est quasi automatique. Bref, on donne plus facilement aux plus riches. La musique et le théâtre attirent davantage. La danse et les arts numériques beaucoup moins. L'accessibilité au grand public demeure le facteur déterminant pour l'intérêt des mécènes. Les compagnies de risque artistique, de recherche pure et dure, on le comprend, auront du mal à augmenter ainsi leurs revenus autonomes. De 85 à 95% des producteurs-diffuseurs accèdent à un financement privé substantiel, contre seulement 25% des centres d'artistes. La fonction de diffusion multiplie les opportunités. Public élargi, événements visibles, ancrage dans des réseaux de donateurs, selon l'étude. Et il vaut mieux être en ville quand on demande des dons. Les trois régions de Montréal, de Lanaudière et de la Capitale-Nationale reçoivent à elles seules 80% des sommes octroyées pour 2018-2024. Et Montréal concentre 70% du financement privé en culture. Hors de la ville, peu de reçus de charité en somme. Faire mieux. Comment transformer le rapport des Québécois à leur culture? Volume 10 formule 5 recommandations. D'abord, lancer un programme de démarrage pour outiller les organismes afin qu'ils puissent développer efficacement leur financement privé. Assurer des formations pertinentes pour augmenter et raffiner les compétences est la suite logique et la seconde recommandation. Ensuite, bonifier le programme Mécénat Placement Culture dont les données démontrent qu'il fonctionne lorsque ces enveloppes sont nourries régulièrement. Et finalement, faire des campagnes de valorisation et d'engagement pour les citoyens et aller chercher davantage de données, d'informations et d'études pour voir ce qui fonctionne, ou pas. Est-ce que ce sera assez pour provoquer un changement de culture à notre culture? C'était « La philanthropie culturelle traîne de la patte au Québec », un texte de Catherine Lalonde, paru le 17 novembre 2025 dans Le Devoir.
Cancer. Un répertoire des essais cliniques au Canada rendu accessible. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 10 novembre dans La Presse. Les Canadiens ont enfin accès à un site web qui recense les essais cliniques menés à travers le pays contre le cancer, une ressource pourtant offerte de longue date dans des juridictions comme les États-Unis ou l'Europe. La Société canadienne du cancer et le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec ont ainsi annoncé lundi le lancement du site « Essais cliniques sur le cancer au Canada », qui est présenté comme étant le seul site web national et bilingue destiné à centraliser l'information sur les essais cliniques et la rendre accessible aux patients. Citation. La diffusion de l'information concernant les études cliniques est une chose qui était manquante, a admis le Dr Denis Soulière, qui est hématologue-oncologue et porte-parole scientifique et médicale de la Société canadienne du cancer. Elle existait de façon partielle dans certaines provinces, mais on sait qu'il y a certainement un besoin qui est exprimé par la population. Fin de citation. Une enquête menée récemment par l'Institut Angus Reid en collaboration avec la Société canadienne du cancer a ainsi constaté, sans grande surprise, que 90 % des Canadiens sont favorables à un accès élargi aux essais cliniques pour les patients atteints de cancer. Cela étant dit, face à un éventuel diagnostic de cancer, 74 % des personnes interrogées ont confié qu'elles hésiteraient à participer à un essai clinique par crainte d'effets secondaires indésirables et 66 % parce qu'elles se méfieraient de traitements n'ayant pas encore fait leurs preuves. Plus de 9 participants sur 10 ont admis ne savoir que peu ou pas de choses au sujet des essais cliniques. La nouvelle ressource, a-t-on expliqué par voie de communiqué, vise en partie à remédier à la situation en fournissant, citation, aux Canadiennes et aux Canadiens, à un seul et même endroit, de l'information claire et actualisée à propos des études menées auprès d'adultes à travers le pays en milieu universitaire et pharmaceutique. Fin de citation. Les essais cliniques, a-t-on rappelé, jouent un rôle essentiel dans l'avancement de la recherche sur le cancer, en permettant d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de nouvelles approches thérapeutiques sous étroite supervision médicale. Ils offrent aux patients l'occasion de participer à des projets qui pourraient potentiellement améliorer les soins pour les personnes atteintes de cancer et sauver des vies, a-t-on ajouté par voie de communiqué. Citation. On a malheureusement encore beaucoup de types de cancers pour lesquels on a encore des besoins très importants. C'est-à-dire que les traitements qui sont actuellement disponibles ne sont pas excessivement efficaces, a dit le Dr Soulière. Donc, ça amène beaucoup de gens à vouloir avoir des informations sur des options de traitement différentes, et clairement, les options de traitement différentes viennent quand elles sont développées dans le contexte d'études cliniques. Fin de citation. Les registres qui existaient jusqu'à maintenant étaient « relativement austères », fin des guillemets, a-t-il ajouté, et s'adressaient davantage à la communauté médicale qu'à la population en général. Le nouveau site propose des outils de recherche qu'on dit « adaptés » aux besoins des patients et des professionnels de la santé, fin des guillemets. On y retrouve, par exemple, des fiches détaillées sur chaque essai, notamment en ce qui concerne le type de traitement, les avantages et les risques des essais, les critères d'admissibilité, le lieu où se déroule l'essai et les coordonnées des personnes ressources. Par exemple, lors d'une visite récente sur le site, il n'a fallu que quelques clics pour trouver plus de 500 essais cliniques portant, de près ou de loin, sur le cancer du sein, près de 200 consacrés au cancer de la prostate et près de 250 qui portent sur le cancer du poumon. Des cancers aussi impitoyables que le glioblastome, le cancer du pancréas et le cancer du foie ne sont pas en reste, avec respectivement 20, 80 et 215 essais cliniques. Citation, le but était de développer quelque chose qui servira autant, ellipse, aux professionnels de la santé qu'aux patients qui pourraient être intéressés par le fait de rechercher une option d'essai clinique plutôt que simplement les traitements conventionnels, a expliqué le Dr Soulière, fin de citation. On espère que l'outil favorisera le dialogue entre le patient et son médecin en rendant facilement accessible l'information concernant les occasions qui sont disponibles, citation, en termes de traitement, mais aussi en termes de recherche, a-t-il précisé. Dans les études cliniques, le diable est dans les détails, a rappelé le Dr Soulière. Même si de prime abord, en lisant un titre, on pense que ça pourrait s'appliquer à nous, quand on regarde les critères spécifiques, ce n'est peut-être pas le cas. Donc, sincèrement, je pense que ça devient un outil pour discuter de la maladie et des opportunités de traitement. Fin de citation. L'outil permettra aussi de mesurer si suffisamment d'occasions de recherche sont offertes aux patients du Québec et du Canada, a-t-il ajouté, même si plusieurs acteurs du milieu considèrent d'emblée que ce n'est pas le cas. Face à cette situation, a-t-il ajouté, la Société canadienne du cancer a pu prendre, citation, le relais du gouvernement qui, à mon avis, devrait démontrer son intérêt envers les essais cliniques et favoriser qu'un tel registre existe et favoriser aussi que de plus en plus d'études cliniques soient accessibles à un grand nombre de patients qui ont le cancer au Québec et au Canada. Le but ici est de faire en sorte qu'on augmente les opportunités parce que si l'information n'avait même pas été là, un certain nombre de personnes ne pourraient peut-être même pas avoir accès à cette information pour peut-être être dirigées vers un essai clinique, a conclu le Dr Soulière, fin de citation. C'était « Cancer, un répertoire des essais cliniques au Canada rendu accessible », un texte de Jean-Benoît Legault paru le 10 novembre dans La Presse.
L'énigme de la poutine. Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 27 septembre 2025 dans La Presse. Comment diable la poutine, ce mélange somme toute banal, pâteux et surtout très brun, s'est-elle imposée avec les années au rang de plat emblématique? À l'heure des circuits gourmands, de la valorisation de l'agriculture du terroir et de la gastronomie locale, le statut de la poutine, à titre de fierté nationale, relève un peu de l'énigme. Ce n'est pas nous qui le disons, et on entend déjà les amateurs monter aux barricades. Mais Geneviève Sicotte, professeure émérite du département d'études françaises de l'Université Concordia. La spécialiste des représentations culturelles de l'alimentation s'attaque à cette existentielle question. Et c'en est une. On verra plus loin pourquoi. Dans « La poutine, culture et identité d'un pays incertain ». Un essai à la fois académique et ludique qui devrait plaire aux sceptiques, mais aussi aux fans, de la triade molle. Nous l'avons rencontré, attablé sur une impayable banquette en simili-cuir d'un restaurant La Belle Province, figé dans le temps, rue Bélanger. Avant d'aller plus loin, quelques précisions. Geneviève Sicotte n'est pas friande de poutine. Mais cela ne confère pas de biais gustatif problématique à son enquête, avance-t-elle. Parce que ce que je veux faire, c'est poser le regard curieux d'une universitaire. Ce n'est pas méprisant. J'essaye de comprendre ce que ça dit de nous. Parce que si c'est si emblématique, c'est parce que cela travaille des enjeux de notre identité collective. Parlant d'enquête, c'en est bel et bien une, et cela ne fait aucun doute à lire les 200 pages du bouquin et son imposante bibliographie qui s'étire de nos mijotés à l'époque de la Nouvelle-France jusqu'au record Guinness de la plus grosse poutine en 2021. En passant par les premières apparitions de ce mélange improbable dans les années 1950, sans résoudre l'autre énigme, soit ce débat entourant sa toute première invention, nous n'irons pas là. Sans oublier les relectures gourmandes au foie gras et autres poutines inversées. Analyse étymologique et expériences incarnées incluses. Pensez qui on est. Son hypothèse? Au-delà du sympathique mythe de son invention, qui a fait de nous un joyeux peuple d'irréductibles campagnards bon vivant, adeptes de solides assiettes sans prétention, mais partagées à la bonne franquette? Plus généralement, dit-elle sérieusement, sans renier notre résumé de cette utopie fondatrice, je dirais que la poutine nous sert à penser qui on est collectivement. Si l'on remonte à la Nouvelle-France, explique la chercheuse, nos traditions culinaires relèvent de ce qu'on appelle dans le jargon l'endo-cuisine. C'est la cuisine qu'on fait pour les proches, dans une marmite, mijotée, sans prétention, par les femmes, une cuisine souvent dévalorisée à cause de ça. Pensez soupe au pois. Ça va vous donner une idée du portrait. La poutine, avec son côté réconfortant assumé, s'inscrit effectivement dans ce type de cuisine, mais y insuffle une note plus festive. En effet, poursuit l'autrice, on la mange essentiellement au resto, moins à la maison, pour une occasion, après un match de hockey ou en fin de soirée, en famille ou entre amis, dans un moment de gâterie. Cela fait donc écho au passé traditionnel culinaire, tout en offrant une version plus moderne. À noter qu'un tel plat national n'est pas un emblème fixe, précise-t-elle. Cela exprime un certain état de la collectivité. Et quel est-il? C'est ici qu'on en vient au fameux aspect plus existentiel de la chose. Le sous-titre du livre en glisse d'ailleurs un mot, en allusion à ce « pays incertain », une expression qui n'est pas de l'autrice, mais de Jacques Ferron, fondateur du Parti Rhinocéros. Actuellement, je pense qu'on est dans une situation de retrait par rapport aux enjeux politiques. Avance Geneviève Sicotte. Tout nous pousse à nous dépolitiser, et la nourriture de réconfort s'arrime à ça. On crée un cocon et on se console de la dureté du monde. Est-ce à dire qu'on serait fait, finalement, non pas pour un petit pain, mais une petite poutine? Pas complètement, nuance l'autrice. Parce qu'il y a de belles choses là-dedans. La modestie, on ne se prend pas pour d'autres. C'est un plan national qui ne coûte pas cher. Tout ça, c'est beau. Je dirais que la poutine est un objet qui nous montre dans toute notre complexité, notre belle complexité. Dit autrement, la poutine nous permet de penser qui on est, résume-t-elle. Une petite nation de tradition agricole arrivée dans la modernité qui veut affirmer son existence de manière discrète, modeste, parfois incertaine. Est-ce vraiment nous, ça? Juste ça? Poser la question, c'est ouvrir nos horizons et surtout nos garde-manger. Cela étant dit, n'allez pas lire dans cette proposition un bien peu subtil appel à la souveraineté. S'il y a un appel à quelque chose ici, c'est à la souveraineté culinaire, conclut habilement notre interlocutrice. C'était L'énigme de la poutine, un texte de Sylvia Galipo, paru le 27 septembre 2025 dans La Presse.
Ottawa met en garde les Canadiens voyageant aux États-Unis. Un texte de l'Agence France-Presse, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse. Le gouvernement canadien a émis un avertissement pour prévenir ses citoyens détenteurs d'un passeport avec le genre X qu'ils pourraient avoir des difficultés à entrer aux États-Unis. Le Canada autorise les personnes non-binaires ou transgenres à inscrire le genre X sur leur passeport depuis 2019. Bien que le gouvernement du Canada délivre des passeports indiquant un identifiant de genre X, il ne peut garantir votre entrée ou votre transit dans d'autres pays, a expliqué le ministère des Affaires étrangères canadien dans un avis pour les voyageurs à destination des États-Unis. Vous pourriez faire face à des restrictions d'entrée dans les pays qui ne reconnaissent pas l'identifiant de genre X, précise cette mise en garde publiée lundi, le 29 septembre 2025. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a mis un coup d'arrêt aux avancées des droits des personnes non-binaires ou trans aux États-Unis. Dès son investiture, il a proclamé qu'il n'existait que deux sexes, masculin et féminin, et une seule vérité biologique. Le département d'État américain avait cessé dans la foulée de délivrer des passeports avec le genre X ou un genre différent de celui des titulaires à la naissance, en application de ce décret. Une décision invalidée par une cour d'appel, début septembre. C'était « Ottawa met en garde les Canadiens voyageant aux États-Unis », un texte de l'Agence France-Presse, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse.